biodiversité, agriculture biologique, environnement, zéro déchet, développement durable. Vous souhaitez communiquer et partager vos actions, parler de vos projets sur l'antenne de Radio Alpe Mancel 106.3 FM.
Juste pour que ça dure.
Mon Bio Ecomag vous informe sur différentes initiatives et expériences en faveur de l'environnement et du développement durable sur notre territoire.
Juste pour que ça dure.
Contactez le 02 43 33 24 56, le 02 43 33 15 15.
Juste pour que ça dure.
Écoutez Radio Alpe Mancel sur le 106.3 FM, votre radio associative en territoire Haute-Sarthe Alpe Mancel. Consultez son site internet et rejoignez-nous sur la page Facebook de Radio Alpe Mancel. Avec l'arrivée du printemps, chaque année est lancée la semaine pour les alternatives aux pesticides. Il s'agit cette année de la 18e édition. Pollution de l'environnement, déclin de la biodiversité, de nombreux citoyens, de nombreuses associations se mobilisent pour promouvoir les alternatives aux pesticides. Monsieur Rémi Gillet, président de l'association Environnement Nord-Sarthe, est notre invité sur l'antenne de Radio Alpe Mancel. Bonjour.
Bonjour Jacqueline. J'ajoute la précision, je parle aussi au nom de France Nature Environnement Sarthe.
Et donc, chacun doit se sentir concerné et agir à son niveau. Est-ce qu'on peut tout d'abord donc dire de quoi on parle lorsque l'on parle de pesticides ?
En ce qui concerne les pesticides, ce sont tous les produits phytosanitaires, entre guillemets, que l'on utilise en agriculture non biologique de façon à éliminer les mauvaises herbes, entre guillemets les mauvaises herbes, à éliminer les ravageurs des cultures, toujours entre guillemets, encore que à certains moments la prolifération de certains insectes ou de certains ravageurs de façon plus générale puisse être vraiment problématique. Voilà, c'est assez compliqué à délimiter exactement parce que quand on regarde les différents sites qui en parlent, certains incorporent des produits phyto qui sont admis dans l'agriculture biologique par exemple, hein, et puis d'autres sites disent non, non, ceux qui sont pour l'agriculture biologique, on ne les incorpore pas, ce qui fait que d'un site à l'autre, vous avez des différences de tonnage qui sont quand même assez importantes, hein. On en serait aujourd'hui à 55 000 tonnes pour les uns, à 60 000 pour les autres, à 50 000 tout court pour les troisièmes. Bon, j'ai pris une moyenne.
En tout cas, chacun doit prendre conscience, donc il est urgent de réduire l'utilisation de ces pesticides. Alors pour cela, il faut informer, bien évidemment. Alors comment réduire ces pesticides ?
Alors écoutez, avant de dire comment, moi j'aurais tendance à dire pourquoi. Pourquoi réduire ces pesticides ? Parce qu'ils engendrent, pour certains d'entre eux en tout cas incontestablement, des pollutions de toutes sortes. Alors dans les eaux de surface et les eaux souterraines, en tant qu'environnement Nord-Sarthe cette fois-ci, nous l'avons dénoncé dès le début des années 2000, hein, dans un tract que nous avons distribué à l'époque, et nous dénoncions le fait que 90% quand même des eaux de surface étaient plus ou moins polluées par des pesticides. Après, ça atteint les écosystèmes en général, et puis ça provoque, qui plus est, une baisse de la biodiversité. Nous l'avons déjà dénoncé, nous aussi, en tant qu'environnement Nord-Sarthe, dès la moitié des années 2000, dans d'autres tracts. Hein. Et même si ce n'est pas la seule cause de baisse de la biodiversité, il faut bien dire que c'est l'une des causes quand même importantes. Alors ça provoque d'autre part des inquiétudes des populations devant des atteintes à la biodiversité d'une part, et puis quant à la qualité même de l'alimentation, on sait bien qu'il y a en particulier des résidus de pesticides dans un certain nombre d'eau potable ou soi-disant telle, et certaines communes ont été obligées cette année, enfin l'an dernier en tout cas, de couper l'eau partiellement ou momentanément en tout cas, parce que justement il y avait des pesticides qui avaient été repérés dans l'eau potable. Et puis ces résidus de pesticides, ils peuvent se retrouver également dans les produits alimentaires, et ça suscite une inquiétude quand même du public. C'est une deuxième raison, par certains côtés, de réduire ces pesticides. Et puis alors, Quand on regarde plus loin, il y a un document de l'INRAE, c'est-à-dire l'Institut national de la recherche pour l'agrologie et puis l'environnement, qui date de mai 2022, donc c'est quelque chose de tout à fait récent, et qui montre combien l'emploi des pesticides risque d'être contre-productif à terme. Alors ils mettent en évidence que les pesticides diminuent la pollinisation, diminuent les prédateurs naturels des ravageurs, et que du coup, ça risque de diminuer la production elle-même. Voilà un certain nombre de raisons pour lesquelles il serait bon, il est bon de vouloir réduire les pesticides, voire de promouvoir des alternatives crédibles. Ceci étant, je vais ajouter que ça ne se fera pas comme ça en trois coups de cuillère à peau. Hein.
Je voudrais qu'on revienne sur la pollution des eaux de surface et une actualité récente dans la presse concernant la commune de Saint-Marceau. Quel est votre avis sur ces polluants éternels qui ont été communiqués concernant les eaux de surface sur la commune de Saint-Marceau?
Mais Saint-Marceau, c'est un exemple finalement, ni plus ni moins. En réalité, il y a bon an mal an des dizaines de communes qui sont touchées par des pollutions de surface. Alors, quelquefois, elles sont accidentelles, un déversement accidentel d'une fosse à Purin, par exemple, qui s'est éventrée, des choses comme ça. D'autres fois, c'est quelque chose de plus structurel, c'est-à-dire, si vous voulez, il y a dans les épandages, quels qu'ils soient, parce qu'il n'y a pas que des épandages agricoles, il y a des épandages aussi des bouts des stations d'épuration, par exemple, qui sont prêtées aux agriculteurs. Bon, il peut y avoir des bouts qui soient accidentellement pas conformes. Et donc, dans ces cas-là, que ce soit à Saint-Marceau ou ailleurs, il y a tout à coup une prise de conscience qu'il faut très vite agir. Et en général, bon, même si ça provoque des dégâts, et il faut reconnaître que ça provoque des dégâts, et que s'il faut réduire les pesticides, c'est précisément pour ça. Et en général, pas toujours, des mesures sont prises assez rapidement pour pallier le problème. J'ajouterai là-dessus que plutôt de pallier les problèmes, on ferait mieux de les anticiper et de faire en sorte que ça ne se produise plus. Voilà. Alors, à terme, c'est ce à quoi il faut arriver. Hein. Voilà.
Alors, justement, pourquoi il est si difficile donc, de réduire l'utilisation des pesticides?
Alors, il y a plusieurs raisons à cela. Des plans de réduction des pesticides, éco-phyto, et même avant le fertisolois, par exemple, dans notre secteur, à la fin des années 90, hein, donc ça remonte à plus de 20 ans. Ces plans successifs, le plus souvent, ne comportent pas, ou en tout cas, ne comportent pas assez de mesures contraignantes. Hein. Le plan éco-phyto, le premier qui date de 2008, il visait une diminution de 50% des pesticides, donc il aurait fallu passer de 80 000 tonnes, à l'époque en France, hein, sur la totalité du territoire, à 40 000 tonnes. On est passé péniblement à 55 000 tonnes en 12 ans, et non pas en 10 ans. On voit bien que c'est plus difficile. Alors, c'est plus difficile parce que lenteur de la transformation des systèmes agricoles, il y a des freins hein, même à la transformation des systèmes agricoles, parce que quand on a fait l'acquisition de tel type de matériel, et bien, ma foi, on ne va pas le mettre au rebut dans les 3 ans qui suivent, hein, d'où des plans éco-phyto 2, éco-phyto 2+, etc., etc. Ça, c'est la première raison, des plans qui ne sont pas assez contraignants. Deuxièmement, il y a un gros lobbying de l'agrochimie, hein, il faut pas le cacher, et des agriculteurs eux-mêmes également, pas toujours, mais quand même, en direction de l'administration européenne à Bruxelles et en direction des ministères concernés pour ce qui concerne Paris. Alors on peut donner des exemples, hein, l'exemple du glyphosate. C'est quand même assez symptomatique. On décide de la sortie d'un plan de sortie du glyphosate qui est prévu pour 2021. Et puis là-dessus, ben, on reporte le plan parce qu'on se rend compte que ben, on ne va pas y arriver sans glyphosate encore pendant quelques années et qu'il faut trouver une alternative et qu'on n'a pas trouvé l'alternative. Ceci étant, je vais ajouter, si c'est pour trouver un autre produit chimique qui détruise aussi bien que que le glyphosate, les mauvaises herbes entre guillemets, ma foi, c'est peut-être pas forcément la meilleure solution. La même chose, il y a tout un roman à écrire sur la façon dont on a supprimé les néonicotinoïdes au niveau européen en 2018. On fait une dérogation en 2020 à cause de la jaunisse de la betterave. La Cour de justice vient en janvier 2023, vient de dire que il fallait renouveler l'interdiction de ces néonicotinoïdes. Et on se heurte là à des enjeux qui sont des enjeux économiques. Les agriculteurs ont quand même des difficultés à... En agriculture conventionnelle, en tout cas, les agriculteurs ont des difficultés à passer à autre chose. Certains traînent les pieds, mais on ne peut pas dire que ce soit vrai de tout le monde. Hein. Alors, troisièmement, les législations différentes d'un pays à l'autre, y compris au sein de l'Europe, d'ailleurs, à certains moments, ce qui n'est pas vrai pour le cas précédent. Si vous voulez, si on se met à importer, si on pourrait importer des betteraves, puisque je parlais des betteraves, on pourrait importer des betteraves produites avec des néonicotinoïdes qui sont interdites en Europe. Bon, ça fait une distorsion de concurrence. Alors, ceci étant, je crois que c'est le gouvernement français, je suis pas sûr que ce soit l'Europe, vient d'interdire, c'est un autre exemple, d'importer des cerises traitées au phosmètre. C'est un insecticide organophosphoré. C'est tout récent, hein, de voir un article dans West France. Mais la parade n'existe pas toujours. Puis il y a une quatrième raison, et j'insisterai peut-être sur cette quatrième raison, c'est que, me semble-t-il, les aides à la bio ne sont pas assez régulières et pas assez suffisantes. Les aides de la PAC, d'autre part, ne sont pas toujours bien distribuées, parce que c'est trop compliqué, tout simplement. Résultat des courses, la progression du bio est beaucoup moins rapide que ce qui était envisagé, planifié même, je dirais. Et alors, c'est pas... Bon, ce qui est intéressant, c'est que c'est un document de la Cour des comptes qui le révèle, document qui date de juin 2022. En d'autres termes, on a quand même des documents qui montrent qu'il y a peut-être une mauvaise volonté des industriels qui traînent les pieds et qui font du lobbying même. Il y a peut-être une mauvaise volonté de certains agriculteurs qui n'ont pas envie de transformer trop rapidement leur pratique culturelle. Il y a une mauvaise volonté de l'État qui n'incite pas suffisamment. Et puis, il y a la complexité de la législation européenne. Ça fait beaucoup de raisons qui font que c'est difficile.
Chère Mademoiselle Terre, je t'écris cette lettre. Certaines choses m'inquiètent, on me dit que tu es en peine. Tu ne respires plus, tu subis de tempêtes. Tes habitants te malmènent et font monter ta fièvre. Je voudrais juste m'occuper de toi, m'assurer que tu seras toujours là. J'ai tant besoin de toi. Chère Mademoiselle Terre, demain tout ira bien. J'irai crier sur les toits, le monde entier entendra. Pour te venir en aide, nous trouverons le remède. Comme tu fus autrefois.
Alors donc, la semaine alternative aux pesticides est le temps fort idéal pour promouvoir les solutions alternatives. Alors, est-ce qu'on peut en citer quelques-unes?
Je vais m'appuyer là pour ça sur un document du ministère de l'Agriculture qui date de décembre 2021. Donc, c'est assez récent. Le premier moyen décrit par ce document, ça consiste à accentuer la rotation des cultures de façon à ce que les ravageurs ne puissent pas s'installer. Parce que plus on pratique une rotation régulière, en changeant donc sur un même sol de plantes tous les ans, et en ne revenant à la même plante que tous les 3 ans, en général c'est triennal, enfin il est conseillé que ce soit triennal en tout cas, on diminue automatiquement l'accoutumance des ravageurs sur la parcelle. Je pense que c'est un premier point. Autrefois, moi je me souviens quand j'étais jeune homme, que j'habitais à la campagne, c'était quelque chose de très habituel, la rotation des cultures.
C'est un peu ce qu'on fait nous-mêmes dans nos jardins.
Et c'est ce qu'on fait nous-mêmes dans nos jardins, exactement. Le deuxième piste, sans doute un peu plus compliquée à mettre en œuvre, c'est l'association de plantes sur une même parcelle. Alors, en agriculture bio, en agriculture de conservation, c'est des choses qui se font. Et en maraîchage également, c'est quelque chose qui se fait. On voit bien, quand on circule à la campagne, je vais donner un exemple, hein, des champs de poireaux. Il n'y a que des poireaux, que des poireaux, que des poireaux. Il faut les traiter. En revanche, en agriculture biologique ou en agriculture de conservation, pardon, ou en permaculture, etc., on va alterner, je donne un exemple, hein, un rang de poireaux, un rang de carottes, un rang de poireaux, un rang de carottes. Et il se trouve que cette association diminue la pression des prédateurs, en général des insectes, hein, pour ces, le ver du poireau d'une part et le ver de la carotte d'autre part. Hein. Ça, c'est cette association de plantes sur une même parcelle. C'est un deuxième bon moyen de lutter contre l'utilisation des pesticides. C'est une vraie alternative. Alors après, c'est vrai que dans une culture industrielle, il faudrait voir comment c'est possible, parce que semer un rang de carottes et semer un rang de poireaux en même temps, avec une machine sur un champ, je ne sais pas comment c'est possible. Troisièmement, pour réduire ou proposer une alternative, choisir des variétés plus résistantes et plus adaptées aussi au changement climatique. En ce moment, il y a un changement climatique. Pour donner un exemple, il n'est pas sûr qu'il faille continuer à faire du maïs, par exemple, dans les régions où on manque d'eau. On voit bien à quoi je peux faire allusion à l'heure actuelle, étant donné ce qui s'est passé dimanche dernier autour des méga-bassines dans les Deux-Sèvres, si j'ai bon souvenir. Incontestablement, si vous voulez, faire du maïs dans la plaine de la Saône, dans la plaine de la Saône, on en faisait. Moi, quand j'étais gamin, il y avait déjà du maïs dans la plaine de la Saône, et depuis des années et des années. Pourquoi ? Tout simplement parce que la plaine de la Saône, c'est un gigantesque plan d'eau souterrain, et que trouver de l'eau dans la plaine de la Saône, c'est vraiment pas difficile. Trouver de l'eau dans la Beauce, ça devient problématique, parce que, à force de pomper, la nappe descend. Hein. Choisir d'autres variétés que le maïs pourrait permettre d'être moins gourmand en eau, d'une part, et d'autre part, de pouvoir se passer de certains pesticides. Parce que le maïs est plus gourmand en pesticides que le trèfle, pour donner un exemple. Quatrième piste également, accentuer ce qu'on appelle le biocontrôle. Alors le biocontrôle, c'est l'utilisation d'insectes ou de phéromones pour lutter contre les prédateurs. Par exemple, il y a des bandes de glu, par exemple, qui empêchent les insectes de remonter sur les arbres ou qui vont faire en sorte que certains insectes mâles vont croire qu'il y a des femelles dans ce coin-là, vont y aller, vont se coller et ne vont pas se reproduire. Bon, c'est un exemple, hein, bien entendu, mais le biocontrôle est quand même aussi une bonne alternative, mais jusqu'à quel point ça se discute encore, mais ça paraît être une bonne alternative à certains insecticides en tout cas. Voilà. Ça, c'est la première réponse que l'on puisse donner. Et tout ça est dans un document du ministère. Hein. C'est pas des écolos qui rêvassent, qui disent ça. C'est des documents extrêmement précis. Deuxièmement, il conviendrait d'augmenter les surfaces en bio avec des aides qui soient mieux réparties, plus régulières, comme j'y faisais allusion tout à l'heure. Il est quand même extraordinaire que ce soit la Cour des comptes qui soit obligée de dire, en quelque sorte, que les aides étant mal réparties ou trop compliquées à percevoir, les gens qui voudraient s'engager dans le bio ne le font pas parce que c'est trop compliqué. Hein. Ce que je dis à propos du bio peut être dit pour d'autres formes de l'agriculture. Je pense en particulier, j'y ai fait allusion tout à l'heure, à l'agriculture de conservation qui ne s'interdit pas d'utiliser des pesticides, mais qui vise à en utiliser beaucoup moins par un certain type d'agriculture, des pratiques bien précises, pas ou peu de labour par exemple. Labourer, ça consiste à, si on laboure en profondeur, en tout cas si on griffe la surface du sol, ce n'est pas vrai bien sûr, mais si on laboure en profondeur, on met à la surface, on retourne la terre et on met à la surface des micro-organismes qui ne peuvent pas vivre au contact de l'air, et on enfouit au contraire des micro-organismes qui vivent à la proximité de l'air et qui ne peuvent pas vivre en profondeur. Donc ça tue le sol en quelque sorte. Hein. Et donc en pratiquant une agriculture dite de conservation, où il y a peu de labour et peu profond, on promeut une agriculture qui est moins gourmande en intrants. Elle utilise également plus de variétés en général, hein, et elle fait en sorte que les sols agricoles soient toujours couverts. Alors théoriquement, c'est obligatoire maintenant pour tout le monde. Donc voilà, c'est augmenter les surfaces en bio ou dans d'autres pratiques agricoles, ça serait également un bon moyen, une bonne alternative aux pesticides, en tout cas assurément un moyen de les réduire. Troisièmement, là, on passe à un niveau plus politique. Hein. Il faut sans doute lutter contre la concentration des exploitations agricoles. La taille, d'année en année, la taille est de plus en plus grande. Ça n'encourage pas, au contraire, on l'a bien vu dans notre secteur, hein, ça n'encourage pas, au contraire, l'installation de jeunes agriculteurs. Tendance à laisser faire ce genre de choses est quand même contre-productive, parce que ça encourage une agriculture toujours plus industrielle. À ce niveau-là, il y a un contrôle plus sévère qui devrait être fait, et il y a un organisme qui est tout prêt à cela, c'est les SAFER. Hein. Il faut redonner aux SAFER un pouvoir qu'elles ont un peu perdu. Voilà. Ça, c'est le troisième point, si vous voulez. Quatrième point, là aussi, c'est très politique. Hein. Il faut s'adresser aussi aux consommateurs. Il faut communiquer sur la réalité des prix. À partir du moment où on laisserait, je parle au conditionnel, importer, mettons du Brésil, qui utilise très volontiers les néocotinoïdes, à partir du moment où on laisserait entrer des produits qui sont fabriqués avec ces néocotinoïdes, alors qu'ils sont interdits en Europe et en France, il y a une distorsion de concurrence évidente, et les agriculteurs ne vont pas y retrouver leur compte, et il n'est pas sûr non plus que les consommateurs y retrouvent aussi leur compte, dans la mesure où ça va être à nouveau des produits phyto qui vont se retrouver plus ou moins dans l'alimentation. Il y a des luttes à mener. La loi Egalim a commencé à le faire, hein, incontestablement, qui a commencé en tout cas à protéger les prix agricoles. Il faut lutter contre la tendance au toujours moins cher, qui est voulue par tout le monde. Hein. Le consommateur veut bien payer moins cher, et puis les distributeurs font de cela un argument de vente. Bon, dans les grandes surfaces, il y a une lutte à faire, et il faut communiquer véritablement sur le fait que manger a un prix et que ça ne peut pas être zéro. Voilà. Et puis, la lutte contre les produits importés, ben, j'y faisais allusion tout à l'heure, interdire ou taxer lourdement des produits qui sont faits, enfin des produits agricoles, je veux dire, hein, qui seraient mis sur le marché avec des cahiers des charges qui ne soient pas les mêmes, voilà, qui soient moins 10 ans. Il y a une législation ici, à mon avis, européenne, à promouvoir, de façon à ce que on cesse d'importer des produits qui sont faits, des produits agricoles qui sont faits avec ces produits phytosanitaires qui seraient interdits en Europe. Voilà. Donc ça fait des éléments qui permettent, à mon avis, de réduire véritablement l'utilisation des produits phytosanitaires. Alors, après, en conclusion, j'aurais tendance à dire, idéalement parlant, il faudrait les supprimer le plus vite possible. Dans les faits, si on pouvait les diminuer à nouveau de moitié d'ici les 10 ans qui viennent, ce serait déjà pas mal. Voilà.
Donc on a beaucoup parlé d'utilisation des pesticides dans le milieu agricole, mais nous, dans notre quotidien, je pense également, il y a une bonne prise de conscience à avoir. Est-ce qu'on peut dire comment chacun peut agir à son niveau ?
En réalité, dans les tracts que nous distribuions dans les années 2000, nous en parlions, hein, de façon, bon, on peut éviter de polluer en cultivant notre jardin, incontestablement. On peut éviter de polluer en faisant, alors nous disions à l'époque, en faisant attention aux insecticides qu'on utilise. À la limite, j'aurais tendance à dire aujourd'hui, mais c'est 15 ans plus tard, ah non, 20 ans plus tard même, j'aurais tendance à dire aujourd'hui, ben, il faut pas utiliser de pesticides. Il faut pas utiliser d'herbicides. Alors, pour donner un exemple précis, très, très clairement, désherber à la main, c'est vrai que c'est plus long, mais ça pollue quand même nettement moins. Et puis c'est peut-être bon pour la santé après tout. C'est un exemple, hein, bien entendu. Hein. C'est un exemple. Ça fait des années et des années que je n'utilise plus ni de désherbant, ni d'insecticide. Le seul produit phyto que j'utilise encore, je dis je personnellement, et que là, il est autorisé en agriculture bio d'ailleurs, c'est la bouillie bordelaise, parce que de fait, sur mes arbres fruitiers, j'en mets un coup une fois par an. Voilà. Mais c'est un exemple assez précis. Ceci étant, on sait très bien que dans certaines régions de vignes en particulier, l'utilisation continue de la bouillie bordelaise a enrichi les sols en cuivre, hein, tout simplement, et que à certains endroits, en tout cas, il paraît que ça devient problématique. Ce qui veut dire que même un produit autorisé en agriculture biologique n'est pas innocent.
Et la récompense, on l'a déjà vis-à-vis de la biodiversité qu'on peut, on va dire, entre guillemets, redécouvrir dans nos jardins, ne serait-ce que les coccinelles, par exemple, qui sont beaucoup plus nombreuses que lorsqu'on utilisait les pesticides.
Alors écoutez, c'est évident, autour de chez moi, on est une quinzaine de propriétaires de pavillons sur un espace, un peu plus d'un hectare, je pense. Voilà. Ce qui est remarquable, c'est que depuis plusieurs années maintenant, plus personne n'utilise de pesticides et on voit dans nos jardins des insectes, on voit dans nos jardins des oiseaux qui reviennent en masse. Il y a une chose assez remarquable qui s'est produite il y a une dizaine d'années, je pense maintenant, le nombre des moineaux dans les villages avait diminué. Ça remonte à une dizaine d'années. Hein. Et puis, il se trouve que le nombre de moineaux a remonté considérablement. Alors, est-ce que c'est dû uniquement au non-emploi ou au moindre emploi des pesticides dans nos jardins parce que depuis le temps qu'on le préconise, je pense que ça a des faits. Hein. Autour de chez moi, je sais qu'il y a quasiment plus personne qui n'utilise de pesticides. Voilà. Donc on voit plus d'oiseaux, on voit plus d'insectes. Et si on veut se protéger des insectes, il y a des pièges particuliers, pour des pièges aux phéromones en particulier, hein, qui permettent de piéger certains types d'insectes sans tuer les autres. Parce que les insecticides, comme les nicotinoïdes, ça tue tout. Ce n'est pas suffisamment sélectif. Au contraire, les pièges à phéromones, ils sont sélectifs. C'est-à-dire, vous allez éliminer tel type de mouche, la mouche du poireau par exemple, j'en sais rien, et pas les autres. Hein. Donc, c'est vers cela qu'il faut tendre. En tout cas, incontestablement, dans nos jardins, il y a des oiseaux, il y a des insectes, et puis il y a aussi le plaisir de manger ses propres produits bio. Et véritablement, c'est là aussi une vraie satisfaction.
Et on dira de préserver sa santé. Donc, en tout cas, on vous remercie, Monsieur Rémy Gillet, donc, pour toutes ces informations. Vous interveniez, donc, pour France Nature Environnement Sarthe et l'association Environnement Nord Sarthe. Juste un mot pour conclure.
Eh bien, écoutez, je voudrais vous remercier, de nous avoir fait signe pour pouvoir avoir cet entretien. Je pense qu'il est important que nos auditeurs sachent que nous sommes quand même nombreux, indépendamment de nos associations, hein, nous sommes nombreux à avoir le souci de notre environnement. je connais des gens qui n'appartiennent pas à nos associations et qui en ont aussi le souci. Et je connais beaucoup d'agriculteurs qui, eux aussi, en ont le souci et que je veux saluer parce que on a trop tendance, peut-être à juste titre ou pas, j'en sais rien, à dénoncer des agriculteurs qui polluent. Nous l'avons fait encore récemment, et nous l'avions fait l'an dernier déjà, mais je dois dire que je veux saluer tous les agriculteurs qui sont soucieux de notre environnement, et je crois que leur nombre augmente quand même régulièrement. Voilà.
Merci à vous, je vous souhaite une bonne journée.
Merci à vous, Jacqueline, et bonne journée à vous aussi.
Au revoir, à bientôt.
À bientôt, au revoir.
Il faut juste s'occuper de toi, s'assurer que tu seras toujours là. Nous avons tant besoin de toi. Mademoiselle Terre, je termine cette lettre. Sauras-tu nous pardonner et te remettre à rêver?